Bonsoir. Le Qatar, inquiet pour sa Coupe du Monde de football, l'Émirat ne veut pas faire les frais des affaires de corruption qui ont poussé Sepp Blatter à la démission et il dénonce par avance les préjugés racistes dont il pourrait être victime. Lakshmi-Lotha nous appellera de Doha. En Syrie, l'armée d'Assad est aux abois face à l'État islamique. Des milliers de combattants chiites venus d'Irak ou d'Iran sont appelés en renfort, nous dira Ludovic Piétenu. Regain de tension en Ukraine avec de violents combats près de Donetsk, Kiev, dénonce une offensive majeure des séparatistes pro-russes. En France, comment enseigner l'histoire à l'heure de la réforme des collèges? Les nouveaux programmes font polémique. Nous en parlerons avec notre invité Hubert Tison, secrétaire général de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Le scandale de corruption qui agite la FIFA va-t-il remettre en cause l'attribution du Mondial 2022 au Qatar? Officiellement, il n'en est pas question. Mais avec le départ de Sepp Blatter, le petit Émirat perd l'un de ses plus fidèles soutiens. Le président démissionnaire de la Fédération internationale de football n'avait pas ménagé ses efforts pour justifier le choix du Qatar. Il est aujourd'hui au cœur des soupçons de corruption qui ont amené la justice américaine à enquêter sur les conditions d'attribution de la compétition. Le Qatar a donc décidé de contre-attaquer en dénonçant par avance le racisme dont il ferait l'objet. On retrouve à Doha notre correspondante Lakshmi-Lotha.
C'est un mondial auquel le Qatar tient beaucoup, une fierté. Il se tiendra pour la première fois au Moyen-Orient, rappelle le comité organisateur de la Coupe du Monde de 2022. Nous avons subi des critiques dès le moment où nous avons gagné le droit d'organiser ce tournoi, écrit le comité, qui évoque des préjugés à l'encontre du pays. Même explication pour le ministre qatarien des Affaires étrangères, pour qui certains pays, certaines entités et quelques personnes ne veulent pas qu'un pays arabe et musulman de la région puisse accueillir une compétition de cette importance. Face au tumulte provoqué par les investigations sur la FIFA, Doha affiche la confiance. Nous avons été blanchis après l'enquête de Michael Garcia. Que le processus judiciaire suive son cours, déclare le président de la Fédération qatarienne de football. En tout cas, les travaux pour la compétition se poursuivent. Les récents événements à la FIFA n'auront aucun impact sur nos préparatifs en vue du mondial, dit le comité pour 2022. Comme si de rien n'était, le Qatar continue donc à y croire.
Lakshmi-Lotha, par ailleurs, le bras droit de Sepp Blatter, le français Jérôme Valk, affirme ce soir n'avoir aucun reproche à se faire. « Je n'ai pas à me justifier d'être innocent », martèle le secrétaire général de la FIFA, interrogé sur France Info. Mardi, le New York Times avait accusé Jérôme Valk d'avoir transféré 10 millions de dollars au bénéfice de Jack Warner, un ancien dirigeant de la FIFA, aujourd'hui recherché par le FBI. On en vient maintenant au conflit syrien avec ce constat. Après la chute de Palmyre il y a 15 jours, le régime Assad est sur la défensive. L'État islamique s'est ouvert le chemin de Damas. L'armée syrienne s'est en partie repliée sur la capitale et elle vient de recevoir le renfort de milliers de combattants irakiens et iraniens. Renfort indispensable pour faire face à une éventuelle offensive djihadiste, Ludovic Piétenu.
L'organisation État islamique est à 200 km seulement de Damas. Bachar al-Assad ne contrôle plus que 50% de son pays. Et après la prise de Palmyre par l'organisation État islamique, marquant ainsi la première victoire contre des intérêts militaires du régime de Bachar al-Assad, la capitale syrienne est évidemment dans la ligne de mire. L'heure est donc grave pour les soutiens du président syrien. Téhéran, par l'intermédiaire du général Qassem Soleimani, le stratège iranien en Irak et en Syrie, semble vouloir renforcer son soutien militaire en dépêchant 10 000 combattants chiites, des Iraniens, des Irakiens, des Pakistanais, des Afghans, organisés, constitués en milices. 7000 hommes supplémentaires seraient déjà en poste pour protéger la capitale et sa banlieue depuis quelques semaines, selon une source de sécurité syrienne qui a demandé l'anonymat, citée par l'agence France Presse, mais d'autres sources occidentales et arabes l'affirment également. Le général des forces Quds, les forces extérieures de la République islamique d'Iran, Qassem Soleimani, serait arrivé dimanche en toute hâte à Damas pour opérer un changement de braquet dans l'aide de l'Iran à la Syrie, une participation plus directe, inédite en 4 ans de guerre, et qui consiste à protéger les zones stratégiques, accepter de contrôler moins de territoires, mais mieux les contrôler. C'est la nouvelle doctrine suggérée par Téhéran à son allié syrien. Hier, ce général iranien aurait déclaré ceci: dans les jours qui viennent, le monde sera surpris par ce que nous préparons.
Ludovic Piétenu, merci. Et pendant ce temps-là, les États-Unis multiplient les mises en garde sur la durée du conflit avec les djihadistes qui s'annoncent très long. Il faudra une génération ou plus pour venir à bout de l'État islamique. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le général John Allen, le coordinateur américain de la coalition internationale anti-Daesh. En Ukraine, de violents combats ont éclaté aujourd'hui dans le Donbass, les plus violents sans doute depuis la conclusion d'un cessez-le-feu à Minsk en février dernier. Selon Kiev, les séparatistes pro-russes ont lancé une offensive majeure à une vingtaine de kilomètres de leur fief de Donetsk, offensive qui aurait été repoussée par l'armée ukrainienne. De son côté, le Kremlin dénonce une provocation des Ukrainiens. La correspondance à Moscou de Caroline Gojar-Larsson.
Selon Kiev, il s'agit là d'une offensive majeure contre les positions ukrainiennes. Selon Moscou, ce n'est rien d'autre qu'une provocation. Comme l'ont confirmé les chefs rebelles, niant toute implication dans l'assaut. Reste que les combats font de nouveau rage près de Marinka, à une vingtaine de kilomètres du fief séparatiste de Donetsk. Selon des journalistes sur place, des séparatistes ont pourtant reconnu qu'on leur avait donné l'ordre d'attaquer, ce qu'ils ont fait ce mercredi à 4h du matin. D'après l'état-major de l'armée ukrainienne, les accords de Minsk ont ainsi été violés et l'ennemi a envoyé en direction de Marinka plus de 10 chars et jusqu'à 1 000 000 d'hommes contre l'armée. Pour l'heure, il est encore difficile d'établir un bilan, mais l'offensive aurait déjà fait plusieurs dizaines de morts, dont au moins 15 du côté séparatiste, mais aussi 80 blessés. Côté ukrainien, les chiffres sont plus flous. On déplore pour l'instant une quinzaine de blessés, parmi lesquels 6 civils, dont une femme serait finalement décédée. C'est l'affrontement le plus meurtrier depuis février dans l'est de l'Ukraine, depuis la reprise par les rebelles d'une ferroviaire stratégique de Debaltseve entre Donetsk et Lugansk. Une fois de plus, les accords de paix de Minsk sont à deux doigts de voler en éclats. Une réunion prévue dans la capitale biélorusse ce mardi a d'ailleurs été reportée.
Caroline Gojar-Larsson, les négociations entre la Grèce et ses créanciers vont-elles aboutir dans les prochaines heures à Bruxelles? Peut-être, si l'on en croit François Hollande et Angela Merkel, qui ont eu un entretien téléphonique avec Alexis Tsipras, entretien qualifié de constructif par les trois dirigeants. Le Premier ministre grec qui doit rencontrer en ce moment le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Un coup dur pour Nicolas Sarkozy. 6 anciens collaborateurs de l'ex-président ont été placés en garde à vue quelques heures aujourd'hui. Parmi eux, il y avait Claude Guéant, Xavier Muscat et Emmanuel Mignon. Il s'agit de l'affaire des sondages de l'Élysée. La justice enquête sur d'éventuelles irrégularités dans les contrats conclus par la présidence Sarkozy avec plusieurs sociétés de conseil, dont celle de Patrick Buisson Publifact. On apprend ce soir que les 6 gardés à vue ont été relâchés après leur audition par la brigade de répression de la délinquance économique. Le gouvernement a tranché dans le dossier Areva. C'est EDF qui va reprendre la plupart des activités du géant nucléaire français. Areva qui a essuyé l'an dernier une perte de 5 milliards d'euros. Le groupe emploie 44 000 salariés dans le monde, dont 15 000 en France. François Hollande en personne a présidé cet après-midi à l'Élysée une réunion sur l'avenir de la société. Isabelle Raymond.
C'est l'option qui tenait la corde depuis plusieurs semaines déjà. EDF reprend l'activité réacteur d'Areva, de leur conception à leur fabrication, ce qui fait dire à la CFDT, jointe ce soir par France Info, que c'est un peu comme si Areva avait vendu son cerveau à EDF. Mais l'Élysée insiste, il ne s'agit pas d'une cession totale, Areva reste actionnaire et aura donc toujours son mot à dire. D'ailleurs, l'activité réacteur sera autonome, ce sera une société dédiée. Voilà pour les grandes lignes du projet, validé ce soir par l'État actionnaire qui possède plus de 85% des deux entreprises. Reste maintenant à en connaître les détails et notamment le prix de la cession. Elle ne règle en tout cas pas les problèmes financiers d'Areva. L'État promet déjà ce soir de mettre la main à la poche pour renflouer les caisses du groupe nucléaire. Il le fera à la hauteur nécessaire, précise l'Élysée.
La place de l'histoire dans la réforme du collège était au cœur d'une série de tables rondes organisées aujourd'hui à la Sorbonne. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, tente en effet de désamorcer la polémique autour des nouveaux programmes scolaires. Comment enseigner l'histoire de France aux collégiens? Faut-il un récit national? Pourquoi l'enseignement de la chrétienté au Moyen-Âge est-il devenu facultatif? Autant de questions qui ont alimenté le débat public ces dernières semaines. Finalement, les futurs programmes scolaires seront reformulés d'ici septembre. Reste à savoir si cette promesse du gouvernement suffira à faire taire les critiques. On en parle avec notre invité, Hubert Tison, secrétaire général de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Bonsoir.
Bonsoir.
Hubert Tison, cette réforme des collèges prévoit en l'état des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs en histoire. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous ?
Non, parce que c'est dans les choix qui sont faits justement entre le facultatif et l'obligatoire.
Qu'est-ce qui pose problème ?
Ce qui pose problème, c'est qu'il y a des pans entiers qui sont laissés dans l'ombre ou qui seront traités ou pas par les collègues en fonction de leur temps. Et si vous voulez, ça paraît quand même très singulier notamment en cinquième, par exemple. Vous avez d'un côté l'islam qui doit être traité obligatoirement, et qui l'est d'ailleurs depuis des années, hein. Et puis vous avez la société chrétienne en Occident, qui est, elle, facultative.
Donc ça, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas ?
Non, parce que je pense qu'il faut donner à tout le monde, à tous les enfants de toute la France, d'ailleurs, qu'elle soit ultramarine ou hexagonale, il faut donner des éléments identiques ou en tout cas traités nationalement, de façon à ce que tous les élèves ne soient pas victimes d'une injustice territoriale, d'une répartition inégale de telle ou telle portion du programme. C'est-à-dire ainsi, par exemple, pour la quatrième, les Lumières, la Révolution américaine sont mis dans l'ombre. Bon, la Révolution française, bien sûr, est là. Mais c'est quand même fâcheux de laisser dans l'ombre des facteurs qui ont été très puissants dans l'éclosion des idées qui ont favorisé la Révolution. Les grands philosophes, que ce soit Rousseau pour le contrat social, que ce soit Montesquieu pour l'esprit des lois, que ce soit Voltaire et ses combats, et notamment le procès Calas, que ce soit Diderot et son encyclopédie. Bref, il faudrait concevoir ces programmes autrement. C'est d'ailleurs, on est invité à faire des propositions, de façon à ne pas laisser dans l'ombre certaines parties qui permettent d'expliquer aux enfants et aux adolescents les facteurs qui ont pu déclencher la grande révolution, comme on disait à l'époque, française.
Hubert Tison, d'une façon générale, vous contestez finalement le fait de donner une certaine autonomie aux professeurs ? Il faudrait être plus directif, selon vous ?
Non, au contraire, on a réclamé la liberté pédagogique, mais il y a quand même une contradiction. D'un côté, on vous enjoint de traiter des questions qu'on met en gras et on le dit, c'est obligatoire, et d'autres questions en maigre, c'est-à-dire facultatives. Et donc, moi, alors à ce moment-là, où est la liberté pédagogique du professeur ? Il faut le laisser libre, mais lui donner les moyens de traiter ce programme, bien sûr avec des choix, mais on peut faire d'autres choix, mais en intégrant, par exemple, en cinquième, pour reprendre la question de l'islam, si on la laisse en cinquième, l'islam, début, expansion, société et culture, faire la même chose pour le christianisme. Parce que le christianisme ne se résume pas au pape, aux évêques, aux archevêques, il y a le peuple, si vous voulez. Et nous, on étudie le fait religieux et non pas, si vous voulez, la religion en tant que telle. On étudie l'histoire des religions, ou les religions dans l'histoire, voilà, dans les sociétés.
Hubert Tison, un autre point important, oui. Il y a un débat sur la meilleure façon d'aborder l'histoire de France, oui. Roman national ou récit national. Quelle est la nuance entre ces deux visions ?
Si vous voulez, roman national, moi je ne vois pas de professeur qui enseigne le roman national à l'heure actuelle. C'était une construction qui était apparue au XIXe siècle, dans une république qui était fragile. Hein. On a parlé de la conquête de la République par les Républicains, ils ont mis 10 ans, et il fallait bien asseoir des bases, donc on a proposé aux enfants un certain nombre d'histoires romancées, qui n'étaient pas scientifiques, notamment sur la naissance de la France avec Clovis, sur l'empereur Charlemagne et son école, sur Saint-Louis, etc. Si vous voulez, cette histoire-là, on ne l'enseigne plus. Le problème qui se pose, c'est faut-il un récit national ? Et moi, je pense qu'il faut, pour en tout cas pour les enfants de l'école élémentaire et pour les collégiens, il faut un récit national, hein, pour essayer de trouver une histoire commune, ça c'est très difficile, qui puisse rassembler, qui puisse réunir et non pas qui divise. Alors si vous insistez trop sur les mémoires des différentes communautés, bon, à ce moment-là, la balance penche du côté des mémoires et plus de l'histoire. L'histoire, c'est une construction, une reconstruction à partir des mémoires, à partir des mémoires individuelles, à partir des mémoires collectives. Et je pense qu'il ne faut pas renier les mémoires. Elles peuvent être très utiles pour la construction de l'histoire, mais l'histoire, c'est autre chose.
Hubert Tison, secrétaire général de l'Association des professeurs d'histoire-géographie, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. On termine avec la météo demain, un temps estival avec du soleil et de la chaleur, seul bémol, un peu de grisaille le matin sur l'Aquitaine et quelques nuages en journée sur la Bretagne. Les températures seront largement supérieures aux normales saisonnières, les températures maximales, 18 à 23 degrés en bord de Manche, 24 à 30 degrés sur le reste de la moitié nord, 29 à 35 au sud, et même des pointes à 36 degrés en Aquitaine. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.